Avec grand plaisir, Roulambert Café, j'accueille mon invitée Marie-Josée Michaud. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour, Jocelyne, comment ça va?
Ça va bien. Et vous allez nous parler de votre livre, votre bébé, 80 heures par semaine, quand l'hyperperformance devient toxique. C'est percutant comme titre.
Oui, je suis pas mal fière de la maison d'édition d'avoir osé aller vers un titre comme ça parce que, bon, ben, on se demande 80 heures, c'est composé de quoi? Est-ce qu'on travaille vraiment le 80 heures?
Oui, j'ai comme l'impression qu'on est beaucoup à avoir, pas nécessairement vécu ce que vous avez vécu, mais d'abord à travailler à une certaine période de notre vie, 80 heures par semaine, sauf que il faut s'en sortir de ça. J'aimerais ça que vous nous parliez d'abord de votre enfance. Vous aviez de grands rêves, vous vouliez performer toute petite.
Oui, effectivement. J'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il fallait que je fasse de grandes choses tout le temps. Je pense que j'avais cette impression-là qu'il fallait que j'aille chercher l'approbation des gens qui étaient importants pour moi, donc ma famille, mon père, ma mère, etc. Et j'avais cette croyance que j'allais donc que je sois le plus gentil possible, le plus serviable possible. Puis c'est pas mes parents qui m'ont demandé ça, mais c'est moi qui me mettais cette pression-là. Et à cause aussi beaucoup des lectures que j'ai faites, parce que j'habitais en Afrique très jeune, il n'y avait pas de télévision, donc je me suis mis à être très passionnée par les livres et inconsciemment, je recherchais toutes les histoires de ces femmes qui avaient fait une différence dans notre société ou dans des sociétés inconnues, donc je découvrais, j'étais interpellée par ça, je me disais, c'est ça que je veux devenir un jour, je veux devenir une femme d'exception qui va faire une différence. Fait que mon enfance a beaucoup bercé par la suite, les décisions que j'ai prises, les rôles que j'ai choisis dans ma vie là, pour exister et contribuer dans la société d'aujourd'hui.
Et le métier que vous avez choisi était en lien avec ça?
Absolument. Dès que j'ai découvert que je pouvais devenir une femme qui était responsable d'opérations, de production dans des milieux normalement réservés plutôt aux hommes, comme par exemple, j'ai été gestionnaire dans l'aéronautique et à l'époque où je suis devenue, il y avait seulement 1% de femmes cadres au Canada qui étaient dans ce milieu-là. J'ai travaillé aussi à la SCM, deuxième femme nommée à la SCM surintendante. Donc, c'était toutes des choses qui me nourrissaient beaucoup parce que ça m'amenait vers mon objectif qui était finalement, à un moment donné, de devenir une vice-présidente dans une entreprise d'envergure en production.
Et il y a eu des enfants aussi en cours de route.
Oui, écoutez, Abel et Ariane qui sont, on est une équipe qui sont des êtres extraordinaires qui m'ont permis de traverser beaucoup d'épreuves. Tu sais, souvent on oublie d'écouter nos enfants. Je peux vous dire qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils ont été, ils ont passé à travers des moments extrêmement difficiles à cause justement de cette carrière-là, de ces objectifs-là que je m'étais mis en tête. Et ils ont traversé ces épreuves-là avec moi. Ils m'ont fait grandir et je les ai fait grandir à travers tout ça parce qu'il y a eu vraiment une belle communication. D'égal à égal, finalement, au travers de leur apprentissage de comment ils ont grandi et moi aussi dans tout ce qui se passait dans ma vie.
Et quand même, assez jeunes, ils ont compris des choses que vous n'aviez pas comprises encore.
Oui, absolument. Mes enfants ont tenté à plusieurs reprises de me ramener vers l'empathie-toi, finalement, que je connaissais pas du tout à ce moment-là. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ma fille craignait pour ma vie, même à un moment donné, elle m'a obligée, elle a dit « Maman, là, je t'oblige à aller voir un médecin. » Il y a mon fils qui m'a éclairé sur des choix de vie que j'étais en train de faire dans mes couples qui n'étaient pas nécessairement très sages. Fait qu'ils ont su voir des choses bien avant moi parce que j'étais trop pris dans le tourbillon de « je vais être parfaite », donc d'être une mère parfaite. Et quand tu essaies de faire ça, ben malheureusement, tu passes à côté de bien des choses parce que tu n'es plus capable d'être dans le moment présent, tu es dans l'hypervigilance et donc tu risques de faire des erreurs, puis mes enfants ont eu la sagesse de me ramener. Et je pense qu'à quelque part, j'ai quand même eu la sagesse, à un moment donné, d'être ouvert à leur enseignement puis d'avancer là-dedans avec eux.
D'accord. Vous avez frappé un mur en 2005. Racontez-nous quand même rapidement.
Quand le mur est arrivé, lorsque je travaillais à la SPM, tout à coup, j'ai complètement perdu mes repères. J'étais allée pour faire mon épicerie, puis j'arrivais jamais à me souvenir de la première item. C'était une petite liste de 10 items, puis j'avais une mémoire phénoménale à l'époque. J'étais même connue pour ça. Et j'arrivais pas du tout à me rappeler du premier item. J'ai dit, je vais aller me reposer, puis en sortant de l'épicerie, je trouvais plus ma voiture. J'étais au centre-ville de Montréal. Et là, la panique s'est complètement installée parce que j'étais comme dans un brouillard. Mon cerveau a arrêté de fonctionner. Donc, j'ai appelé un ami qui est venu me chercher m'a amenée en urgence chez un médecin. Et puis, c'est là que j'ai reçu un diagnostic. Il n'y a pas un gestionnaire qui veut recevoir, surtout quand tu veux donner un VIP, celui de dépression majeure.
Ouais. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Comment on fait pour s'en sortir?
Bien, je pense qu'à un moment donné, quand tu as atteint le fond comme ça, tu as le choix de malheureusement, c'est toujours vrai. Là, il y en a qui sentent qu'ils n'ont pas le choix. Moi, j'ai senti que j'avais un choix à faire qui était soit je continue dans cette dérape ou je choisis le chemin du rétablissement. Et c'est ce que j'ai fait. Puis heureusement, le programme, parce que j'ai été 4 jours en psychiatrie, le programme l'hôpital Notre-Dame qui m'a été offert de 6 semaines m'a aidé à aller vers ce chemin-là, finalement, de me choisir. Puis tranquillement, ben, vous savez, j'ai été une hyper performante au travail, donc je performais au travail. Et malgré la peur que j'avais de plus avoir de carrière, que ce soit plus possible, ben, j'ai décidé de ressortir tous mes outils d'hyper performante, puis d'aller comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé, parce que je voulais pas rester là. Je voulais pas que ça revienne. Je voulais pas que mes enfants aient à repasser à travers tout ça non plus. Alors, je me suis assurée de sortir ces beaux outils-là, puis de faire plein de recherches qui m'ont amenée vers ma deuxième carrière. J'ai refusé finalement 2 postes de VP pour continuer dans la lignée que j'avais découvert au fur et à mesure, parce que oui, j'ai eu une carrière après avoir reçu mon diagnostic, et je suis devenue une spécialiste en santé psychologique au travail, et ça depuis 7 ans maintenant.
Ce qui veut dire que là, vous faites votre travail et puis vous voulez nous aider aussi à plus grande échelle en proposant ce livre.
Oui, exactement, parce que vous savez, quand j'ai réussi à comprendre qu'est-ce qui m'était arrivé, il a fallu que j'aille vraiment en profondeur. Puis c'est difficile. Ça prend, quand même, je dois le dire, ça prend du courage de découvrir toutes tes facettes négatives ou qu'est-ce que tu as pu te faire à toi-même puis aux autres. Parce que souvent, on se fait donner des recettes. C'est juste à mettre ça en application. Mais aujourd'hui, ça va bien aller. T'sais, mon psychiatre me disait, par exemple, « Marie, quand tu vas apprendre à être incompétente, tu vas être heureuse. » OK. Vraiment? Là, c'était jamais. J'étais tellement en colère qu'il me dise ça. Puis là, tranquillement, en étudiant, j'ai vraiment découvert qu'est-ce qui se passait derrière ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de le mettre en application? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de prendre soin de nous? Qu'est-ce qui nous pousse à, même si on connaît la recette, on l'a intégrée intellectuellement et logiquement, à ne pas être capable, dans la vraie vie, à le mettre en action? Puis c'est ça que j'ai voulu, parce que j'ai étudié beaucoup, je le mets en application dans les entreprises actuellement, c'est des recettes qui fonctionnent. Et qu'est-ce que j'ai compris? Pourquoi ça fonctionne en entreprise? Parce que quand je suis avec des gens, je leur parle de mon histoire. Je leur parle de ce qui m'est arrivé, des vraies affaires. Puis là, j'intègre les notions à apprendre, à comprendre pour le développement d'intelligence émotionnelle qui va faire que, bon, ben les notions d'empathie de soi, de l'ego, de la résilience, du lâcher prise, toutes ces choses-là deviennent à un moment donné tangibles et applicables. Donc, à travers le livre, c'est ce que j'ai voulu faire. Puis je lève mon chapeau à la maison de l'édition de la semaine et à Sophie Aumet, mon éditrice, qui a vraiment compris, parce que normalement, c'est soit un témoignage ou c'est soit des recettes ou des actions à mettre en place. Là, j'ai dit à Sophie, non, il faut que les deux soient vraiment intégrés pour que les gens comprennent à travers mon histoire puis l'enseignement qui est fourni à travers l'histoire quand ça devient apte à le mettre en application. Parce que souvent, quand on est touché dans le cœur, on retient beaucoup plus que quand c'est que la logique.
Ça s'appelle donc 80 heures par semaine avec comme sous-titre « Quand l'hyperperformance devient toxique ». C'est écrit par Marie-Josée Michaud. Un gros merci, Marie-Josée, c'est aux éditions La Semaine. Alors, à lire absolument.
Bien, je vous remercie, Jocelyne, de m'avoir reçue puis de m'avoir permis d'expliquer l'objectif de mon livre en espérant qu'il va aider tous les grands, les hyperperformants à continuer à performer parce qu'ils vont savoir le faire au bon moment, pour les bonnes raisons. Puis surtout de la bonne façon, c'est-à-dire en sachant préserver son énergie vitale pour qu'il puisse justement continuer à performer.
Merci à vous, Marie-Josée. Bye bye.
Au revoir.